Ils vont se multiplier.
Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le d'or.
Uno, all, two, vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Uno, all, two, vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Aujourd'hui, les acteurs ont moins de gueule, pas lui. De plus, au physique, il ajoute la poésie. Personnage solitaire, face à lui ce matin, une troupe sonore de maris, de femmes et d'amants. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Un artiste renonce à créer dans une forme d'opposition à l'époque. Arrêter, c'est un acte fort, il l'a fait lui aussi dans le passé, dans une autre vie. Bonjour Eric Cantona.
Bonjour.
Ulysse, artiste contemporain qui s'est retiré du monde, c'est vous, dans Ulysse et Mona, un film de rencontre, comme le qualifie son réalisateur Sébastien Bête-Bédé, un ermite jusqu'à l'arrivée de la jeune Mona, c'est Mona Lisa, et le film commence, Ulysse et Mona sort mercredi prochain. Lui aime citer cette phrase de Proust, « Tout notre malheur vient de notre désir d'aimer », et c'est un peu le sujet de son film. Bonjour Pascal Thomas.
Bonjour.
Un marié s'enfuit le jour de ses noces, mais la cérémonie est maintenue, et chacun raconte une histoire d'amour déçu, perdu, jusqu'à la fantaisie et le burlesque. À cause des filles, votre nouveau film est aussi à l'affiche mercredi prochain. Les sorties de cette semaine, dominées par le grand Clint Eastwood, mais aussi des fauves, un berger à l'Elysée, Eric Clapton, Green Book, l'Ordre des médecins et le premier Miyazaki inédit, c'est parti.
Je suis cet homme avec cette barbe blanche. Aujourd'hui, ce visage est le mien. J'ai mérité ces rides. J'ai peut-être même mérité cette tristesse dans le regard. Je me souviens qu'il y a longtemps, je fus un jeune homme. Qu'est-ce qui pouvait bien se tramer derrière cette expression ? J'ai oublié.
Extrait de Blow Up, ce web magazine d'Arte que Sébastien Bête-Bédé, le réalisateur d'Ulysse et Mona, vous a consacré. Eric Cantona, un portrait à travers vos films, vos rôles. Cette tristesse dans le regard, comme vous dites, elle vient d'où ?
Cette tristesse dans le regard, j'espère qu'il n'y a pas que ça.
Non, mais il y a aussi ça.
Mais je sais pas, après. J'ai pas vraiment conscience de tout ça, moi. Non.
Quand vous regardez dans un miroir, c'est parce que vous voyez, quoi.
Quand je regarde dans un miroir, ouais, c'est...
Qu'est-ce que vous voyez?
Qu'est-ce que vous voyez,
que vous voyez quand vous regardez?
Ben non, mais qu'est-ce que je... Ça dépend des jours, ça. Hein. Ça dépend des jours.
Ce matin.
Ça dépend des jours, comme devant une œuvre d'art, quoi. Ça dépend des jours, on la voit selon nos humeurs, quoi.
Vous êtes une œuvre d'art?
Non, mais je suis pas une œuvre d'art. Non, là, ce que je vois dans le miroir, c'est plutôt, une réflexion. La réflexion du miroir et une réflexion intellectuelle. Quoi.
Ouais.
Ouais, voilà.
Ouais, c'est ça. Moi, je vois pas de tristesse. Je vois un regard très intérieur, très intériorisé. Mais pas de la tristesse, non. Il y a besoin. On se rencontrait là. J'ai vu un regard très amusé. Tout le temps, je disais des conneries, mais c'est plus de l'intériorité que de la tristesse. C'est mon point de vue de metteur en scène, mais vous savez, je suis un débutant.
Sébastien Bête-Bédé, qui vous avez déjà dirigé dans Marie les Naufragés, cette fois vous donne un premier rôle. Plutôt que de raconter l'histoire d'Ulysse et Mona, passons par cet extrait avec votre copain dans le film, Jean-Luc Vincent, qui dit déjà beaucoup.
Putain, Élise, comment je me sens con sans elle. Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'elles nous abandonnent?
C'est moi qui ai abandonné Alice. T'as oublié?
Non, c'est vrai. Bah, t'étais encore plus con. Je peux te raconter un truc sans que tu le prennes mal?
Vas-y.
La nuit dernière, j'arrivais pas à trouver le sommeil à cause de Sylvie. Tu sais ce que j'ai fait?
Non.
Ben, je me suis mis à penser à toi. Tu sais quoi? Ben, ça m'a permis de relativiser. Je me suis dit, je suis quand même pas au niveau d'Ulysse. Ulysse, lui, il était au top et il a dégringolé d'un seul coup. Bon, moi, j'ai jamais vraiment été au top, mais j'étais à peu près heureux jusqu'à présent. C'est vrai, non? T'étais un artiste reconnu. T'avais une femme que tous les hommes rêveraient d'avoir, un fils formidable. Et t'as tout foutu en l'air.
Ulysse était au top, il a dégringolé d'un seul coup, Eric Cantona. Pourquoi il a dégringolé?
Oh, peut-être parce qu'il s'est retiré, il a décidé d'arrêter, il fait sa dernière œuvre contemporaine, dans une bulle, avec un masque, et puis il décide d'arrêter.
Marre de ce monde.
Radicalement, marre de ce monde, peut-être marre de ses recherches, de ses inspirations, peut-être marre de tout ça, je sais pas.
Un type qui ne comprend plus le présent, comme dit Sébastien Bédé.
Ouais, en tous les cas, il décide de se retirer dans un manoir, au milieu, dans une forêt, il joue au tennis, seul, contre une machine.
Ou peut-être qu'il est devenu le monde de l'art contemporain. C'est ça qui vous fait, à mon avis, en regardant le film, c'est l'impression que j'ai. Le titre est plus sain que tout ce qui est proposé par l'art contemporain. Voilà,
il a une forme d'intégrité, cet Ulysse.
Ben c'est dur d'arrêter, hein.
Oui.
Mais c'est des décisions difficiles. On rêverait des fois de se retirer du monde, aller vivre seul, en ermite. Mais c'est difficile parce que finalement c'est la chose la plus simple qui serait réalisable.
Ouais.
Se retirer, vivre dans un petit mazé,
avec une bonne
vivre
copine.
De chasse, de pêche,
avec
la
copine.
Nature. Une copine.
Vous vous êtes arrêté, vous, un jour.
Décisions qui sont difficiles à prendre.
Oui.
Quand on est forcé d'arrêter, plus difficile. Même plus difficile à accepter. Voilà. De prendre une décision qu'on décide vraiment, radicale, alors qu'on pourrait continuer, ça, c'est difficile.
Il y a arrêter dans la gloire, et puis arrêter comme lui, qui n'est pas forcément un artiste hyper reconnu.
Il est assez reconnu quand même parce que Mona elle est étudiante aux Beaux-Arts c'est sa source d'inspiration, c'est son modèle, c'est pour ça qu'elle va à la recherche de ce mec. Donc c'est un artiste qui est reconnu, sa dernière œuvre elle est au Centre Pompidou, c'est quand même un grand artiste contemporain. Moi, j'aime beaucoup l'art contemporain.
Oui.
Contrairement à Pascal Thomas.
Je parlais du personnage. Ouais. Non, mais c'est le milieu. Moi, je me suis arrêté 2 fois 6 ans. Alors, je vais vous dire, je ne pouvais plus supporter les gens de cinéma. Je comprends très, très bien ça. Bon, après, j'ai repiqué, mais j'ai eu besoin.
Comme la cigarette,
Oui, c'est comme la cigarette. La cigarette, j'ai arrêté pour de bon. Mais depuis 26 ans, depuis la naissance de ma fille. Mais ce n'est pas très intéressant. Mais pour ce qui est le personnage que vous interprétez parfaitement, et on a l'impression que cette vie de solitaire lui convient, et son chien, qui est important dans le film, lui convient mieux que tout ce que lui proposait, les expositions, ouais. D'ailleurs, il est agacé quand la fille vient le voir, la scène est très très bonne, quand il la rejette, etc. Et là, vous êtes à la fois dans la douceur, la violence, et vous avez aussi une qualité que n'ont pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui, énormément d'acteurs et actrices aujourd'hui, c'est que vous avez une voix qui se reconnaît. Mmh. Un acteur, on doit reconnaître sa voix, même quand vous êtes arrivé, vous avez parlé, vous étiez dans Bandeau, ça y est, c'était lui. Et ça, il faut le reconnaître même quand il est off, même quand il n'est pas à l'écran. Voilà. Donc là, vous avez cette qualité-là, et à la fois de beaucoup de douceur et de violence, et d'intériorité. Pas de tristesse, je ne vois pas de tristesse chez vous.
Qu'est-ce que vous aimez dans l'art? Quel artiste contemporain vous aimez? Vous disiez, j'aime l'art contemporain. Qu'est-ce que vous aimez? Cette radicalité, cette...
Non, mais j'aime bien les portes que ça ouvre. J'aime bien Philippe Parrainot. J'aime bien même un artiste de street art qui est un artiste contemporain. Et dans sa démarche, même s'il travaille dans la rue, quoi. C'est Banksy.
Oui.
J'aime bien Anne-Véronica Jensen. J'aime bien Kader Acha. Ouais, il y a beaucoup de...
Vous peignez?
J'aime bien les Chamberada.
Vous peignez toujours?
Je m'amuse, ouais.
Vous faites des photos aussi?
Oui, je m'amuse aussi.
Bon, pourquoi, on s'amuse tout le temps. Pourquoi vous dites vous amusez? Enfin,
non, je m'amuse, en fait, j'en ai besoin pour moi, quoi. Mais je le fais en toute humilité, quoi. Voilà, j'aime pas trop l'idée d'artiste, oui, de ceux qui s'autoproclament artistes, quoi. Voilà, c'est à chacun de dire ça me parle ou ça me parle pas. Telle œuvre, d'ailleurs, elle va vous parler à vous, elle va pas parler à un autre. C'est très subjectif tout ça.
En tous les cas, Pascal vous a dit que vous étiez un acteur. De ce point de vue-là.
Ça me fait plaisir en tous les cas.
Non, mais c'est un très bon acteur. Non, mais les artistes, vous avez raison, c'est insupportable. D'ailleurs, les artistes dans le monde de la peinture. Ah, tu n'aimes pas? J'aime bien cette pièce. Bon, le langage est insupportable, est devenu insupportable. D'ailleurs, dans le film que j'ai fait, on évoque une seconde l'art contemporain, et les gens disent, ah non, l'art contemporain. C'est ce qui est dans ce film.
Ulysse, ermite, donc, dans sa maison, va rencontrer un jour cette jeune femme qui elle-même aussi dessine et qui a envie de vous rencontrer. On écoute.
Pourquoi vous vous intéressez à moi? Je n'intéresse plus personne.
Ben moi, vous m'intéressez.
Quelle raison?
Vous voulez vraiment que je vous donne des raisons?
Allez-y, pour voir.
Je m'intéresse à vous parce que j'en ai marre des garçons nus, des fruits dans les coupes, de la peinture byzantine. Parce que j'aimerais réussir ce que vous avez réussi. Moi aussi, j'ai envie de construire quelque chose de beau à partir de ma vie. Je voudrais vous assister.
Je travaille plus. J'ai arrêté, vous le savez.
Mais vous devez reprendre, je peux vous aider. Je peux faire des maquettes, je peux faire des recherches. Je peux porter des objets lourds. Je peux faire des films, des photos. Mais...
On a un peu trop bu tous les deux. C'est pas prudent de conduire dans votre état. Je vais vous préparer une chambre.
Éric Cantona, non seulement vous jouez bien, mais vous ne jouez pas seul. Vous avez dit un jour, jouer c'est se sentir vivre, sentir son corps vibrer et jouer avec les vibrations et les excitations des autres. Parce que vous en avez côtoyé des acteurs plus que vous, je veux dire, dans leur formation. C'est important.
C'est important de jouer, avec les autres et de prendre l'énergie des autres comme eux prennent la nôtre. C'est un vrai échange, quoi. Je suis allé voir un concert de jazz d'une clarinettiste d'origine syrienne, je ne sais plus le nom, mais qui disait entre deux morceaux au public qui était là, vous faites partie de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de jouer et ce que je suis en train d'improviser. Parce que cette énergie du public fait partie de la musique.
Et du spectacle.
Et du spectacle.
Ouais.
Mais acteur, vous l'étiez déjà avant de l'être. Je veux dire, même sur un terrain, on parlait de votre jeu audacieux et imaginatif. Et même en sport, on dit créer du jeu. C'est pareil pour l'acteur, non?
Je crois qu'on est... Après, ça dépend comment il est pratiqué, le sport.
Hein. Oui.
Le football en particulier, quoi. Ouais.
Je vous ai pas dit
le
nom.
Quand il y a certains joueurs, on peut se dire que c'est un art, et certains autres, un petit peu moins, quoi. Ouais. Mais en tous les cas, il y a toujours une forme de création, d'improvisation, de spontanéité, de par rapport à tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a... Comme au cinéma, c'est notre vie, il y a une part de spontanéité. Quand on joue avec l'autre, on sait pas à un moment donné ce qu'il va nous donner, comment on va jouer avec lui. Donc il y a une part inconsciente qui est toute notre vie inconsciente.
Oui, mais quand vous disiez le clarinettiste nous disait, vous aussi vous faites partie de ma création. Hmm. Pareil sur un terrain, le public aussi fait
aussi,
partie.
Vous prenez le même match avec les mêmes joueurs quand il est joué à huis clos, avec le même enjeu,
oui.
C'est pas du tout le même match.
Non. Mais est-ce que vous vous êtes toujours senti acteur?
Je me suis toujours senti acteur. J'ai toujours eu envie de faire ça, en tous les cas. J'ai toujours eu envie de trouver des moyens d'expression et qui me permettent de jouer, qui passent par le travail, pour faire naître un minimum de confiance et ensuite le plaisir du jeu, quoi. Voilà, j'ai toujours eu envie de ça. Donc, je l'ai eu dans une vie intérieure et puis je l'ai aujourd'hui au cinéma ou au théâtre et peut-être d'autres choses après, je sais pas.
Un de vos partenaires dans le film, c'est votre frère. Joël Cantona, on va écouter cette scène qui est très belle, c'est une scène de rêve dans laquelle vous le rencontrez.
Tu as déjà vu le film The Swimmer? Tu devrais voir ça. C'est l'histoire d'un type qui décide de rentrer chez lui à la nage, en empruntant à chaque piscine se trouvant sur son chemin. C'est Bertrand Caster qui joue ce type. T'as pas de piscine? Tant pis. Alors c'est ici que tu vis? Ça ressemble un peu à notre maison, non? Ça me rendrait presque nostalgique. Les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes. Tout s'anéantit. Tout périt. Tout passe. T'as pas l'air d'avoir si peur.
Peur de quoi?
Peur de mourir.
Oui, je vous en parlais pendant l'extrait, Éric Cantona, vous n'avez pas encore vu ce film incroyable qui s'appelle The Swimmer avec Burt Lancaster, Pascal Thomas, vous l'avez vu.
Oui,
c'est un des films les plus incroyables de l'histoire du cinéma américain dans les années 68.
C'était
un Burt Lancaster qui est en maillot de bain du début à la fin et qui revisite sa vie et ses démons.
C'est un très très bon film.
Très bon film.
Plus extraordinaire.
Très intriguant.
Je vous en cite 100 avant.
Non, mais bien sûr.
Très
mais
insolite quand même.
Très insolite.
Oui.
Mais BD dit, il y a quelque chose d'intime et de troublant de réunir ces deux frères. C'est ce que vous avez ressenti aussi, le trouble?
Avant cette scène de rêve, il y a une scène où, on communique, parce que la dernière œuvre
d'Ulysse.
Parce que c'est Mona qui vient, qui lui donne un peu cette force de reprendre quelque chose. Et c'est peut-être ce qui l'a nourri dans ses œuvres d'avant, c'est cette séparation avec sa femme, cette séparation avec son, ce conflit avec, avec le frère, avec le fils, tout ça. Toutes ces fêlures, cette souffrance d'être séparé d'eux. Qu'il est décidé ou pas, on ne sait pas. Mais en tous les cas, on est séparés d'être chers. Je pense que c'est ce qu'il a nourri aussi dans, dans ses œuvres, avant qu'il décide d'arrêter. Et sa dernière œuvre, l'œuvre ultime, c'est retrouver ces gens et de se réconcilier avec eux ou essayer de recréer quelque chose avec eux. Et la scène avec mon frère, d'abord, quand on échange par Skype.
Oui.
Je trouve aussi très forte. Mais c'est troublant de jouer... parce que c'est mon frère dans le film et c'est mon frère dans la vie. Oui. Et en même temps, c'est un rêve quoi, qu'on est en train de vivre.
C'est bizarre.
À ce moment-là, il a un maillot de bain.
Oui.
En plein hiver, en pleine forêt. Quoi. Voilà, si on voit, parce qu'on n'a pas les images. Donc c'est très troublant. Ouais. 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 L'idée de jouer deux frères au cinéma dans une autre histoire que la nôtre...
Oui.
Parce qu'avec mon frère Joël, nous, on habitait dans une petite maison quand on était petit.
Oui.
Et on avait deux lits, deux petits lits de 70 cm. Donc, il y en avait un qui était contre le mur.
Oui.
Il y avait 30 cm, et puis un autre de 70 cm, et puis 30 cm, et puis une fenêtre. Voilà. Et avec mon frère Joël, on avait celui qui était contre le mur.
Oui.
Et on a dormi là ensemble, tête-pied. Enfin,
oui,
tête-bêche.
Voilà. Tête-bêche. Jusqu'à l'âge de 10 ans.
Et
l'autre, c'est mon frère. Et l'autre, c'est mon frère Jean-Marie. Donc, on est une famille assez proche.
Oui. Voilà.
Et de le retrouver là comme ça, oui, c'est voilà, parce que bon, des fois, il y a des frères comme ça. Il y a des familles où c'est moins où il y a moins de fusion.
Oui.
Nous, on est une vraie famille avec une vraie fusion. Enfin, j'en sais rien. Ce que je ressens en tous les cas et ce qu'on ressent tous.
Il est acteur aussi, lui.
Il a fait des films.
Ouais, il a fait des films.
Mais il est magnifique.
Ouais.
Il est magnifique. Pascal parlait de voix tout à l'heure. Je trouve qu'il a une voix aussi, magnifique, une présence extraordinaire. Il a un physique, magnifique physique.
Il n'y a pas de jalousie entre vous?
De jalousie?
Ouais.
Ah non.
Non.
Non, non, non.
Non.
Non, si on pouvait avoir un film où il y a les deux rôles principaux, et même les trois, l'autre, mon frère Jean-Marie, il est né aussi, il peut jouer.
Comment vous choisissez vos films? Parce que vous avez des choix atypiques un peu depuis que vous faites ce métier.
Je choisis les films que j'ai la chance de je reçois pas 50 milliards de trucs, mais j'ai la chance de recevoir des choses que j'aime. Et tout ce que je fais, c'est vraiment ce que j'aime, quoi. J'ai la chance de pouvoir choisir des choses que j'aime, quoi.
Je regarde, vous parlez main ouverte, je regarde votre ligne de chance, c'est extraordinaire, hein.
Regardez, là.
Oui, regardez la main gauche, la ligne de chance de votre main gauche, hein, est extraordinaire.
Ah, je sais pas, moi, c'est
le magistral. C'est celle-là.
Ah ouais.
Oui, vers le majeur. Non,
voilà.
Allez voir une bidonis. Ah non, mais une ligne de chance, pas aussi bien que la mienne.
Bon, j'espère que ça va porter chance au film. Ulysse et Mona qui sort mercredi prochain.
Allez le voir.
Aussi, vous restez là, bien sûr, au cinéma, et vous allez autant parler que lui sur votre film, d'accord, hein. Vous allez parler à Pascal Thomas. Au cinéma, au cinéma, c'est souvent la mariée que l'on voit s'enfuir de l'église le jour de la cérémonie. Cette fois, dans À cause des filles, votre film, c'est lui, le marié incarné par Frédéric Becbédé. Cet événement va générer des confessions, des récits, des confidences où chacun se révèle. Tout cela est dans, donc, À cause des filles, ce nouveau film.
Pauvre Céleste. Bernard qui n'est pas venu, c'était son témoin quand même.
Hier soir, il avait une signature, elle écume des pages pour son bouquin. Ça s'est terminé tard, il s'est pas réveillé.
Il aurait pu faire un effort.
Il arrive, il est dans le train.
Oui, ça avait mal commencé. C'est un signe.
C'est plus qu'un signe. Parents absents, en croisière, je ne sais où. Le témoin qui ne s'est pas réveillé, le marié qui s'est volatilisé. Pas de parents, pas de témoins, plus de mariés. Ça fait beaucoup, hein.
Tirer le jour de ses noces, j'aurais jamais cru que Christophe était capable d'un truc pareil.
C'est peut-être le premier acte courageux de sa vie.
Qui nous dit que c'est pas mieux comme ça?
T'as pas toujours des seins. T'as essayé de coucher avec lui, non?
J'ai pas essayé. J'ai couché avec lui.
Mais c'est pas vrai.
Mais quand? Il y a moins d'une semaine.
Mais non.
Enfin, si je me souviens bien, toi aussi t'as couché avec lui, non?
Oui, c'était bien avant qu'il soit avec elle.
Puis c'est moi qui l'ai littéralement sauté dessus. Il s'est laissé faire et il l'a raconté à personne.
Ah.
Bah, tu vois, c'est un type bien, en fait.
À cause des filles, vous dites que c'est pas un film à sketch, Pascal Thomas, mais un film nombreux. Pourquoi vous aimez pas le...
Non, non, c'est un film à tiroir, c'est pas un film à sketch.
D'accord, d'accord.
Et une continuité, c'est un mariage, et les gens croisent leurs histoires, etc. Et puis il y a un lien musical qui permet d'oublier la chute des films à sketch. Non, c'est surtout pas un film à sketch.
Pourquoi ça s'appelle À cause des filles?
Pour une interrogation. Petits points pour l'interrogation.
Ça, c'est une trace de... Non, recherchez le titre. Il y a une chanson magnifique écrite par Antonin Barthelot, qui la chante dans le film, etc. Et qui a ce refrain, À cause des filles. Bon, on cherchait le titre, on se dit, ben voilà, ça se répète plusieurs fois, on va voir ça à la radio. C'est une bonne marque publicitaire, enfin, bon, de lancement. Et d'un coup, là, à ce moment-là, c'était une histoire pas possible. On peut pas aujourd'hui. Pourquoi on peut pas aujourd'hui? Ben, MeToo, vous rendez compte.
Vous pouvez pas appeler un film comme ça.
Non, il y a eu À cause des garçons, personne n'a protesté, donc À cause des filles. Et il dit, on a qu'à faire À cause des filles et des garçons. Mais ça veut rien dire, à cause de tout le monde. Bon. Deux mois de discussion.
Ah bon?
Bon. Donc, j'ai dit, écoutez, à la fin, À cause des filles, des garçons et des hippopotames. Ça va? On parle pas assez des hippopotames. C'est une espèce en voie de disparition. Bon, finalement, on a décidé d'À cause des filles avec un ornement de ponctuation et des points d'interrogation.
Voilà. Et en plus, les femmes...
Attendez. En plus, j'ai bien, pour me défendre, c'est que le à cause, depuis Louise Labbé, en passant, ensuite, en arrivant à Zola, Proust, et avant Balzac, veut dire grâce à. Dans Balzac, vous avez, c'est à cause de vous que j'ai pu avoir cette place de conseiller. Dans Proust, vous avez causé en langage diplomatique veut dire offrir. Donc, c'est à cause des filles, ça veut dire un don des filles.
Oui, c'est pas négatif.
Voilà. Et d'ailleurs, les femmes dans ce film sont fortes, puissantes, triomphantes, drôles. Dans tous vos films, c'est ce que j'allais dire.
D'ailleurs, j'ai eu de féministes, réalisatrices, etc. Elles m'ont donné un label, un prix de féminisme. Voilà.
Et vous êtes fier de ça?
Non, je ne suis pas fier, mais je vous le dis. Ça me sort d'affaire. Je ne suis pas fier.
Et les hommes sont souvent lâches.
Non, ils sont foireux, les types. Ils sont simplement foireux. Ils savent pas, ils ont leur truc, là, ils savent pas quoi en faire. Bon. Ce sont des pauvres, des enfants, pauvres enfants. Au mieux. Non, on a quand même un personnage un type un peu, l'homme politique, il est soigné, quand même. Bon.
En revanche, il y a José Garcia qui incarne un chauffeur de taxi.
Magnifique.
Qui va amener à la maternité une femme au bord d'accoucher et qui reçoit ce coup de fil le lendemain matin.
Elisa Alessandro.
Oui.
Oui. Oui, Daniel Leibovitz, oui. Ah, non. Non, c'est pas mon enfant. Mais quel enfant? Non, moi, je suis venu avec une dame hier soir, oui, ça, je suis venu avec elle. Ah non, mais moi, je suis pas du tout le père de cet enfant, j'ai rien à voir avec cette dame. J'étais en train de faire ma tournée avec mon taxi, et là, il y a une dame qui m'arrête en 5 minutes. Je la fais entrer parce qu'elle était enceinte, et là, je lui dis, ah, vous êtes italienne! Et je lui fais, pour rester avec moi, je veux pas vous payer. Alors, tout d'un coup, je lui dis, non, moi, je vous l'offre la course, elle peut lui... Non. Elle était italienne.
Personne ne croit en son innocence, ni le personnel de l'hôpital, ni sa femme. Il a beau se débattre, au bout de 4 mois, le bébé se retrouve chez lui.
C'est drôle comme situation, ça, Eric Cantona, non? Un type qui amène une femme à la clinique et qui est pris pour le père le lendemain.
Ouais, non, mais c'est très, très, très drôle.
José Garcia, sacré acteur.
Non, merveilleux. Ouais. Je voudrais c'est dommage qu'il ne fait pas plus de films comme ça. Tout le monde me dit en voyant ce film, mais c'est Rému, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça? Il préfère ses acrobaties. Bon, c'est bien, on s'amuse. Mais à mon avis, il y a une telle humanité chez lui, une telle richesse de subtilité de jeu, que c'est regrettable qu'il ait pas des rôles plus, disons, un peu plus denses.
Pascal Thomas, vous avez dit, l'artiste ne doit pas créer de malheur dans ses récits.
Oui.
Jamais de malheur.
Alors, tu sais qu'une fois, on m'a dit, mais t'es jamais triste? Et j'ai dit, non, je détesterais ça. Je détesterais ça. Et je crois que il y a une tendance aujourd'hui à montrer des choses malheureuses, horribles, à être dans la poubelle, etc. Les metteurs en scène que j'ai aimés, John Ford, etc., ou Lou McCarrey, Jean Renoir, etc., même s'il y avait des histoires sombres, etc., il y avait toujours quelque chose de très positif qui faisait que les gens étaient sauvés. Donc, dans ma vie, comme dans et surtout dans les films, dans la représentation filmique, puisque les films sont un peu à caractère autobiographique, je ne retiens que le bonheur, pas de façon mièvre, mais des choses heureuses me plaisent. Je ne sais d'ailleurs pas filmer une scène de bagarre. Vous voyez, on prend un truc élémentaire, j'en ai filmé 3, une au collège, une scène des oiseaux, ben c'est des deux types qui se bousculent à propos d'une histoire politique, il y a le surveillant général qui arrête ça, avec tous les mecs autour qui les excitent. Une autre, c'était dans le film Le Grand Appartement, oui. Où il y avait le personnage qui avait pris pour modèle Jacques Rosier, qui avait habité chez nous pendant à peu près 8 ans, qui répétait ses scènes de comédie musicale. Et le huissier arrive. Hein, des histoires vécues. L'huissier arrive, et dans le film, donc sur le scénario, il y avait bagarre générale. Et la fille arrive avec son sang, etc. Non, je sais pas faire ça, etc. Donc comme il y avait des danseuses, on a transformé la bagarre en ballet, qui avait la même efficacité. Et une autre fois, il y a 3 coups de poing, et tu tombes, ça va. Mais je ne sais pas filmer les bagarres. Alors je suis bagarreur. J'étais.
Vous avez fait des scènes de bagarre, Eric Cantona, vous, au cinéma?
Ouais, j'en ai fait pas mal, ouais. J'ai commencé par... le premier film que j'ai fait, c'était Le Bonheur dans le Pré.
Oui.
Donc je ne me battais pas. Ouais. Dans Mookie, je me battais. Ouais. Dans Les Enfants du Marais... je me battais.
Ouais.
Dans le film d'HPG, je me battais. Oui, je me bats souvent. Dans celui-là, je me bats à un moment donné aussi, dans un bar.
Un coup de poing magnifique.
Le plus dur, c'est de simuler.
Le plus dur, ce serait d'être celui qui tombe, quoi. Moi, j'aime bien ne pas tomber. mais c'est intéressant aussi.
Ouais.
Ouais. Ouais.
Pour enchaîner sur l'idée de, effectivement, de pas créer de malheur, il y a aussi l'idée de pas ennuyer le public.
Ah, surtout.
Dès
l'école, c'était comme ça. J'ai bien amusé les autres. Ça s'est poursuivi. Je veux pas ennuyer. Voilà. Je déteste m'ennuyer. D'abord, je me déteste m'ennuyer au cinéma. Ouais. D'ailleurs, bon, ils font un festival Romère, mais j'ai toujours tiré des films de Romère. Il y en a des parties.
Ça vous appartient, parce qu'elle tombe à
part. Ça m'appartient.
Ça vous appartient.
Et c'est, pour moi, ce sont des passants. Mais c'est pas le pire. Vous aviez quand même Antonioni. J'ai fait partie des siffleurs à Antonioni quand j'étais jeune cinéphile à 16 ans, à Cannes, en 1960. Quand on est passé l'Aventura, nous on aimait Alain Douane, on aimait Raoul Walsh, on était en train de réhabiliter ces cinéastes très populaires, mais qui avaient le défaut par rapport à la critique d'avoir été produits par des grosses maisons de production comme la MGM, la Warner, etc. Donc,
vous pourriez citer surtout les cinéastes italiens que vous aimez.
On ne doit pas ennuyer, jamais, 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 jamais.
Vous pourriez citer Scola et les autres que vous aimez, les cinéastes italiens que vous aimez.
On s'est tourné vers les cinéastes amusants, on a même on les a portés à la connaissance du grand public, tous ces cinéastes italiens des années 50 et scénaristes qui sont devenus mes amis d'ailleurs.
Alors à propos de scénaristes, ouais. Vous dites que le scénario c'est l'illusion.
Non, l'écrit c'est l'illusion.
L'écrit.
Et vous... La littérature c'est l'illusion. Pourquoi? Allez-y, finissez votre...
Non, c'est parce que je lisais que pendant votre tournage, vous inventiez le film il n'était pas écrit avant.
Pas tout.
Pas tout.
Non, mais c'est il faut en faire rentrer la vie dans les films.
Bien sûr.
Non, le mariage au café, on espérait un mariage, on va avoir du beau temps. Bon, on a eu une demi-journée de beau temps. Ben, on a fait rentrer le mauvais temps, mais ça donne des grilles sublimes. On a même fait, il y a un moment donné, il y a un personnage qui demande chez Denis Belloc, le restaurateur du café et qui nous recevait, qu'est-ce que c'est que ce temps, etc. Elle dit, c'est un climat océanique ici, qu'est-ce que tu crois? Bon, on fait rentrer les choses. Mmh. Et idem, quand on était déjà en tournage, quand le producteur Pancrazi m'a demandé est-ce que tu as quelque chose pour José Garcia, j'ai pensé à cette histoire. Voilà. Et non, mais plus, quand on a cherché la maison de José Garcia, je n'aime pas les appartements ni les maisons sans livres. Donc on trouve une très belle maison du côté de Montreuil, avec des bouquins partout. On prend, il est chauffeur de taxi. Bah, chauffeur de taxi poète. Le mec, on a changé. Il est devenu chauffeur de taxi poète. Ouais. Idem pour Rossi de Palma. On était aussi en cours de tournage, là. Il n'y a pas quelque chose pour Rossi de Palma. Oui, d'accord. On va la voir le week-end. Elle jouait une pièce de Francis Lopez que j'avais vu créée par Luis Mariano, Le Prince de Madrid. Elle était très bonne. Et ça me donne l'idée de faire un peintre amateur et son modèle. Et on lui parle de ça. Je lui invente une histoire, là, comme ça. Il me dit, bon, d'accord, mais je veux pas être nu. D'accord. C'est le sujet du truc. C'est le modèle qui veut pas être nu. Oui, donc les choses naissent comme ça, vous voyez.
Et vos deux films d'ailleurs, c'est drôle, Ulysse et Mona et le vôtre, Pascal Thomas, ont été tournés très vite, en 4 semaines.
Oui.
Ça veut dire que c'est chaud, non, pour faire toutes ces scènes.
Oui, je fais un show. Je suis à chaud.
Non, non, mais c'est vrai non, que c'est...
Sérieusement, ça va vite.
C'est pas facile.
Non, je vais pas vite. Non, mais j'ai 38 personnages, quand même.
Oui.
Justement.
Oui.
Donc 23 principaux.
Mais comment on propose un produit? C'est compliqué d'avoir de l'investissement quand le scénario n'est pas complètement écrit, justement.
Ah, ça, vous faites croire qu'il est totalement écrit.
Non, mais maintenant, comment les films sont produits? Il y a des ânes qui sont dans les scènes de télévision, qui composent des comités. Alors, je regarde certains génériques, je me dis, il y a tous les gens, les intervenants, non, ça a dû être lu par 200 personnes. Il ne faut pas 200 personnes pour décider d'un film. Il faut deux, un ou deux. Voilà. Un producteur qui rêve. Le producteur est celui qui rêve plus le film que vous.
Bon. Oui.
Et la situation, sans compter des filles comme Delphine Ernotte, qui sont des fléaux absolus, qui vous disent ça suffit, ces films d'hommes de plus de 50 ans. Non, mais elle va. Vous remplacez hommes de plus de 50 ans parce que vous voulez. Vous pouvez, avec des ethnies différentes, vous allez voir qu'il y a des protestations là. Les mecs, on n'a rien dit sauf moi qui gueule. Qui continue à gueuler d'ailleurs. Bon. Donc, c'est ridicule. Une cinématographie est forte quand toutes les générations travaillent. Quand vous aviez le cinéma américain des années 50, l'italien des années 50, le cinéma français, vous aviez dans le cinéma américain des années 50, vous aviez ceux qui avaient fait du muet et ceux qui commençaient, Billy Wilder, Black Edwards qui arrivait, etc. Donc c'est la logique de la vie, il faut que tout soit réuni. Et c'est pour ça qu'on parle des films nombreux, j'aime qu'il y ait du monde, de gens très différents, d'âges différents, il y a des enfants, il y a des vieux, etc. Alexandra Stigbart m'appelle, elle me dit, ah tu fais un film, c'est quelque chose pour moi, non, il n'y a rien d'écrit, mais viens. Elle est venue une semaine, ça devient un des piliers du film.
José Garcia, Rossi Di Palma, François Morel, Barbara Schulz, Pierre Richard, Audrey Fleureau, Louis Daudelin-Xin, Bernard Ménez, Irène Jacob, Frédéric Beigbeder, Caroline Ducey, Laurent Lucas, Marie-Josée Croze, Alexandra Stewart, dans À cause des filles.
Bah, derrière Yann de Villeneuve.
Oui.
Et ma fille.
J'étais sûr que j'allais oublier quelqu'un.
Et ma fille.
Et en plus, c'est sa fille.
Qui chante avec Antonin.
Eric Antonin dans Ulysse et Mona également. Mercredi prochain, on se retrouve après Arctic Monkeys pour les sorties.
Dance in my underpants. I'm gonna run for government. I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. I fantasize, I call it quits. I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits, the shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. Documentary that no one else unfortunately saw. Such beautiful photography, it's worth it for the opening scene. I've been driving round listening to the score. Or maybe I just imagined it all. I've played to quiet rooms like this before. my train of thought.
On va parler des sorties de la semaine, on va commencer par La Mule, le nouveau film de Clint Eastwood dans lequel il joue avec son image et son corps, même à 88 ans l'âge de son personnage, aux abois et qui va devenir passeur de drogue pour un cartel mexicain. C'est inspiré d'une histoire vraie, mais aussi un homme rongé du remords de ne pas s'être occupé de sa famille toute sa vie au profit de sa passion, l'horticulture. Traduisez le cinéma, puisque c'est presque une autobiographie, ce film, ce grand solitaire, ce mythe qui n'a cessé de brouiller les pistes. Cette fois, cette silhouette désormais spectrale traverse en voiture un pays où on épargne toujours, où l'on épargne toujours pas ceux qui n'ont pas la peau blanche. Il va les croiser, toutes ces communautés, et reste comme il a toujours fait, en bordure, solitaire, jusqu'à sa rédemption. Mais est-ce vraiment une rédemption? Si c'est son dernier film, c'était vraiment un beau film, Laurent.
Ah oui, si, oui, on va rester là-dessus, ça serait, ouais, ça serait bien, mais on attend le prochain aussi, ouais, en même temps, parce que celui-là est dans la lignée de Gran Torino, et franchement, c'est extrêmement réussi. Il en a le scénariste, d'ailleurs, identique, et très franchement, c'est un autoportrait extrêmement touchant, drôle aussi, parce que Eastwood est très drôle. Voilà.
L'Ordre des médecins, c'est un premier film signé David Roux avec Jérémy Régnier, Marthe Keller, Zita Enroux. Simon, 37 ans, est un médecin aguerri, l'hôpital, c'est sa ville, côtoie la maladie. Il a dit la mort tous les jours dans son service et a appris à s'en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l'intime et le professionnel se brouille. Le vrai sujet, je suis un peu perturbé par Eric Cantona qui parle avec Pascal Thomas. Le vrai sujet du film, Laurent, c'est faire l'expérience de son impuissance, là où on a tout investi dans la médecine, traité de façon très sage, trop sage,
un peu trop sage. On a l'impression que le film se donne dès les premières images. On comprend ce qui va se passer, on comprend l'enjeu que vous venez très bien de décrire. Mais hélas, on aurait aimé effectivement que la machine se grippe un petit peu plus, que les choses arrivent de façon moins mécanique dans le scénario. Alors reste qu'au milieu du film brille une certaine actrice, Marthe Keller, décidément incroyable, y compris dans ses rôles de fin de vie. Elle le disait elle-même récemment. Elle meurt beaucoup au cinéma, mais bon, bah, c'est comme ça, voilà. Il y a comme ça des gens qu'on a envie de faire mourir tellement ils meurent bien, et c'est son cas. Voilà.
Jérémy Régnier est très bien.
Mais
aussi,
bien sûr, le reste de la distribution est très très bien.
Alors voilà le premier film de Miyazaki qui est un inédit et que on va découvrir, Le Château de Cagliostro. Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s'aperçoit que les billets volés sont des faux. En compagnie de son acolyte, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu'une princesse enfermée dans le château détiendrait la clé d'un fabuleux trésor.
Oui, c'est étonnant parce que c'est un film qui a 40 ans, et qui est inédit en salle. C'est le premier film de Miyazaki, et c'est, vous venez de le dire, adapté, s'il vous plaît, d'Arsène Lupin. Alors, c'est extrêmement drôle. Et on se dit, ouais, bah, c'est vraiment pas l'univers du Miyazaki qu'on aime, qu'on connaît, qu'on adore dans ses différentes déclinaisons. Et en même temps, il y a déjà dans cette œuvre de commande qui prend un personnage principal qui n'est pas du tout dans l'univers japonais, mais il y a tout Miyazaki. En tout cas, il y a beaucoup sur l'humour, la mélancolie, et puis surtout des beautés visuelles indéniables qui font que le château de Cagliostro doit impérativement être vu par tous ceux qui aiment l'univers de Miyazaki, et je sais s'ils sont nombreux.
Green Book, sur les routes du Sud, grand favori aux Oscars cette année de Peter Farrelly, sans son frère Bobby, dommage. Et leur comédie transgressive pourrait cette fois un film sérieux, l'histoire vraie en 1962 aux États-Unis, alors que règne la ségrégation, de Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, engagé pour conduire et protéger le docteur Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de concert. Durant leur période de leur périple de Manhattan jusqu'au sud profond, il s'appuie sur le fameux Green Book, ce guide de voyage publié entre 36 et 66 et qui recensait les commerces et autres établissements qui acceptaient la clientèle noire. Alors oui, et tous les critiques le disent, le film est une ode à la tolérance, bien millimétrée, entre humiliation, émotion et amitié. C'est vrai aussi qu'il décrit une situation intenable, celle de l'Amérique, à la veille donc du mouvement des droits civiques. Mais à force de jouer sur les archétypes, le beauf raciste face à l'afro-américain distingué, le film oublie les nuances, tout comme l'interprétation de Viggo Mortensen, tellement loin de son personnage. J'ai lu quelque part qu'il avait regardé pour le rôle l'intégrale de la série des Sopranos. Eh bien, ça se sent plus dans la caricature que dans la finesse. Et pourtant, lui aussi est très bien placé pour les Oscars.
C'est dit.
C'est drôle, les Oscars. Un berger et Deux perchés à l'Élysée. C'est un film de Philippe Lespinasse et Pierre Carle. L'ancien berger Jean Lassalle décide de se présenter à l'élection présidentielle. Pierre Carle et Philippe Lespinasse, deux réalisateurs étiquetés de gauche, mais un peu perdus politiquement, décident de passer à l'action. Ils se proclament ses conseillers de campagne avec l'ambition secrète de révéler sa vraie nature, celle d'un révolutionnaire anticapitaliste égaré chez les centristes depuis 30 ans.
Oui, c'est assez fascinant parce qu'évidemment, on est embarqué avec le candidat Lassalle, hein, comme on sait le faire maintenant. Seulement, évidemment, c'est une fausse impression qu'on est embarqué parce que la machine se grippe considérablement quand le dit Lassalle commence à mettre un peu trop les mains aux fesses de certaines femmes qu'il croise et surtout commence à mettre la main dans celle de Bachar el-Assad sans le dire d'ailleurs à ses deux biographes en herbe que sont Carle et Lespinasse. Donc la machine se grippe, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les deux réalisateurs acceptent de la vérité toute nue, à savoir que au bout d'un moment leur objet principal ne leur plaît plus du tout, ou en tous les cas beaucoup moins qu'avant. Ils croient beaucoup moins à sa candidature, ils continuent à le suivre, mais ça donne une sorte de documentaire dans le documentaire, de regard sur deux gens de gauche en train de filmer quelqu'un qui finalement est au centre de l'échiquier politique. Et comme disait François Mitterrand, le centre, c'est ni de gauche ni de gauche.
Un berger et deux perchés à l'Élysée avec un point d'interrogation à la fin. Comme le film de Pascal Thomas.
Mais oui, des points d'interrogation. Bah oui, Pascal Thomas nous a dit tout le bien qu'il pense du point d'interrogation.
C'est qu'un remords.
Oui. Voilà, c'est ça.
Exactement.
Oui, exactement.
Les Fauves, deuxième film de Vincent Mariette après Tristesse Club. C'est l'été dans un camping en Dordogne. Des jeunes gens disparaissent. Les rumeurs les plus folles circulent. On parle d'une panthère qui rôde. Un sentiment de danger permanent au cœur duquel s'épanouit Laura à 17 ans. La rencontre avec Paul, un écrivain aussi attirant qu'inquiétant, la bouleverse, une relation ambiguë se noue. J'aurais vraiment beaucoup aimé ce film qui dénote beaucoup dans le paysage français. Un essai de genre et d'atmosphère, polar et fantastique, dans la tête d'une ado avide de sensations. Oui, l'atmosphère est là, mais parasitée par la faiblesse des enjeux et des personnages, pas assez fouillés, et notamment celui de l'écrivain Laurent Lafitte, inconsistant et inabouti, pas lui le personnage. En revanche, grande découverte, Laurent, même si on l'a déjà vu, mais jamais vu comme ça, c'est Lily Rose Depp, elle est diaphane, inquiétante et limite dangereuse.
C'est l'atout majeur du film. Après Zotowski et Garrel, on voit qu'effectivement tout le talent que peut développer Lily Daprose dans un film. Et puis gare à l'utilisation récurrente de Laurent Lafitte dans les films de genre français, ça fait la deuxième fois, on va finir par s'en lasser.
Un portrait d'Eric Clapton, Life in 12 Bars, de Lily Fini Zanuck. Qu'est-ce que ça dit de plus sur cette légende vivante?
En tout cas, ça dit tout sur sa vie, qui est un tissu de bonheur et de malheur, et singulièrement avec évidemment des secrets de famille, des secrets d'origine et de jeunesse, qui fait que la vie de Clapton n'a pas été un long fleuve tranquille, loin s'en faut. Il a ouvert ses archives, toutes ses archives, donc ça donne des images à la fois très émouvantes, très riches musicalement, bien évidemment. Si on aime Clapton, c'est mon cas en tous les cas, on a envie de voir ce personnage évoluer sur grand écran et dire tout le bien qu'on pense de cette musique, bien sûr.
Avant de donner les cadeaux, on va terminer par deux festivals.
Deux festivals, un festival à Angers, premier plan, le fameux festival des premiers films, du 25 janvier au 13 février, avec 10 longs métrages en compétition, etc. Un hommage à Costa Gavras, pardonnez-moi.
On a le temps, Laurent.
On a le temps. Donc c'est un festival qu'on aime beaucoup parce que effectivement, ce sont les jeunes cinéastes de demain et les cinéastes européens notamment qui s'y produisent. Ça c'est très important. Oui. Et puis pour vous faire peur, vous irez à Gérardmer jusqu'au 3 février à partir du 30 janvier. C'est là aussi l'emblématique festival du cinéma fantastique. Messieurs Delépine et Carverne en sont les présidents du jury. Ça va dépoter. Ils ont évidemment une compétition. Un hommage à Eli Roth et puis des films d'école aussi devant eux à regarder. Ça, c'est toujours très intéressant.
Tiens, je vous verrais bien Eric Cantona dans un film de Delépine et Carverne.
Ah, c'est des génies, hein. Oui. Il vous propose, vous regardez même pas le strip, c'est très bon.
Oui.
Je dois vous conseiller ces deux-là.
C'est Mammouth, ils ont fait.
Oui,
magnifique.
On fait un appel pour qu'ils pensent à Eric Cantona.
Je pense qu'ils n'auront pas de problème à vous proposer quelque chose.
Non, je pense pas.
Deux cadeaux pour vous, Pascal Thomas. Le premier, c'est On sait votre amour, on l'a dit tout à l'heure, pour la comédie italienne. Alors, on va vous offrir un film assez rare de Alberto Latuada qui s'appelle Venez donc prendre le café chez nous.
C'est moi, je le prends volontiers.
Oui,
c'est moi et mes Israël qui l'avons sorti en France.
Retour à l'envoyeur.
J'étais très ami avec Latuada.
Retour à l'envoyeur, c'est édité par Tamasa. Il y a un très beau livre très très intelligent de notre spécialiste du cinéma transalpin Jean Gilly, et vous verrez Hugo Tognazzi est incroyable dans le rôle d'une ancienne ganache qui essaye de...
Très politiquement incorrect très, aujourd'hui.
Très politiquement
ça fait plaisir.
Incorrect. Absolument. Et c'est une bonne introduction au festival, à la rétrospective que la Cinémathèque française à Paris fera du 30 janvier au 25 février en hommage à Alberto Lattuada. Voilà.
Je voulais aussi conseiller, il y a Guillaume Niclou qui est l'autre génie du cinéma français, avec Kevin de Lerpent, qui est un cinéaste fantastique, génial, qui certainement se tournera un jour vers vous. Oui. Il ne peut pas vous manquer.
Et pour le Marseillais, Éric Cantona, on vous offre Scheherazade, le premier film de Jean-Bernard Marlin, qui se passe à Marseille, qui a 3 nominations absolument méritées au César pour le premier film et pour les 2 meilleurs espoirs, masculin et féminin, pour Kenza Fortas et Dylan Robert, qui jouent les 2 premiers rôles de cette très très belle histoire d'amour improbable dans le Marseille des quartiers.
D'ailleurs, il est dans le coffret des Césars. Vous n'avez pas eu le coffret des Césars, Éric Cantona ?
Non.
Vous ne votez pas.
Quand j'étais président de la série, j'avais appelé ça le cercueil.
Vous votez pour.
Et chez à l'émission de Tapenard, de
Trapenard.
Ils sont très comment dire feel good. Là ils m'ont dit mais dans quel film aimeriez-vous vivre ou être? Bon, on n'a pas envie d'être dans un film. Mais bon, j'ai joué les jeux. Mais une chose dans laquelle je voudrais pas être, c'est dans le coffret des Césars. Hein. Parce que là, c'est que des histoires sinistres, ennuyeuses et tout. Et j'ai quand même cité Macaré pour être le film où on pourrait être. Mais là, tout ce que vous avez dit sur les films, c'est le nombre de films qui sortent, mais c'est impossible.
Et encore, une vie, on parle pas de tous les films.
Non mais une vie, ils sont fous, ils sont devenus cinglés, ils tuent le cinéma.
C'est fini. Ça s'appelle À cause des filles et ça s'appelle Ulysse et Mona. Merci Éric Cantona, merci Pascal Thomas d'être venu. On va terminer avec vous avec le générique. Voilà, on vous fait signe.
On peut faire une...
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes. Et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son. Ça veut dire quoi, ça ?
Sporto Cantes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Hugo Combes s'est occupé de la préparation.
Victor Hugo Combes, donc. C'est une émission réalisée par Louis-Ferdinand Céline Hila. Bien.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Qui, comme Gabin dans le Tatoué, dit par de Funès, qui fait masse, Laurent Delmas qui fait masse. Et ensuite. Et, ah oui, mais on peut dire ça, à vous.
Et moi, Éric Cantona, j'y étais.
Et moi, Pascal Thomas, j'y suis passé.